Et donc, de ce fait, peu à peu, la racine même de toutes les souffrances qui naissent de ces impulsions d'attraction et de répulsion vont également disparaître. Donc, ici, on retrouve à nouveau ces trois épisodes de mise en mouvement de la roue de la loi. Le premier, qui parle des quatre vérités, s'attaque principalement à la notion d'une entité personnelle. Le deuxième, qui est la profonde vue de la vacuité depuis les formes jusqu'à l'état de Bouddha ou de l'omniscience de Bouddha, et donc correspond à l'élimination des deux entités à la fois personnelles et phénoménales. Et encore une fois, on trouve cela non seulement bien sûr dans les écrits des grands philosophes indiens comme Nagarjuna et Asanga, mais dans les sutras qui disent bien que tout ce qui est né à la suite de causes et de conditions ne peut pas exister par lui-même et dénué de réalité propre, n'existe que sous la forme de désignation conceptuelle. Mais même si on trouve cela ici et là dans de très nombreux sutras, notamment dans la Prajnaparamita en 20 000 versets, c'est bien Nagarjuna qui a extrêmement clairement souligné cela, qui en a montré, qui l'a formulé de façon essentielle. Également, la façon de faire ainsi une équation entre la vacuité et l'interdépendance est essentielle pour ne pas tomber dans l'extrême de la vacuité. Certains pourraient effectivement comprendre la vacuité des phénomènes, mais ne pas comprendre les phénomènes eux-mêmes, la façon dont ils apparaissent. Il y a donc là un danger de méprise, d'incompréhension. Donc faire comprendre que la vacuité, l'existence propre et l'interdépendance sont une seule et même chose permet d'éliminer tous ces extrêmes conceptuels et d'avoir une compréhension complète à la fois de la façon dont les phénomènes se déploient et de leur nature ultime. Alors pour ce qui est donc des deux vues philosophiques les plus élevées du Mahayana ou de la philosophie bouddhique, donc nous en avons dénombré quatre en tout, donc les deux dont nous avons parlé, et maintenant les deux du Mahayana, sont celles de ce qu'on appelle la vision de l'esprit seul, ou Chittamatra, et ceux de la voie du milieu, ou du Madhyamika. Alors, pour ce qui est de l'esprit seul, ça veut dire qu'il pense que les phénomènes ne sont que des projections de l'esprit, mais n'ont aucune sorte d'existence en eux-mêmes. Alors, il parle tout d'abord d'une façon dont notre esprit est aliéné par son attachement aux phénomènes, et cette aliénation va le conduire à étiqueter les phénomènes comme étant ceci ou cela et à penser qu'ils sont séparés de son esprit. Ensuite, si on comprend que ces phénomènes ne sont que des projections de l'esprit, on en vient à la conclusion que leur nature ultime est une vacuité d'existence propre. Mais donc là, on dénie toute existence, même conventionnelle, aux phénomènes extérieurs. Donc ce que les tenants du Chittamatra ou de l'esprit seul vont dire, c'est que quand on voit une fleur par exemple, eh bien, cette fleur n'existe pas extérieurement, mais elle n'est que le résultat de tendances passées qui ont formé notre conscience d'une certaine façon. Ces tendances, lorsqu'elles s'éveillent ou lorsqu'elles s'actualisent, font qu'un certain monde extérieur est projeté et que nous le percevons comme étant extérieur à notre esprit, alors qu'en fait, il n'est qu'une projection de cet esprit. C'est donc ce qu'on appellerait une théorie idéaliste du monde. Et donc, il y a là, au sein même du flot de conscience, une sorte de relation sujet et objet entre des phénomènes extérieurs et un sujet qui en fait l'expérience, mais que cette relation n'est qu'apparente et qu'en fait, tout n'est qu'une projection de l'esprit. Alors, en ce qui concerne la voie du milieu, ils n'ont pas exactement ce même point de vue. Ils pensent que la réalité extérieure, il suffit de la considérer comme des phénomènes qui apparaissent, qui sont dénués d'existence propre, mais que ni en fait, les phénomènes extérieurs, ni la conscience qui les perçoit, n'ont d'existence propre. Que tout cela n'apparaît que du point de vue de la vérité conventionnelle, qui est trompeuse, mais qu'il n'y a rien, ni l'esprit, ni les phénomènes extérieurs, qui aient d'existence de réalité ultime. Donc, on considère que c'est une vue encore plus profonde. Donc, en fait, pour revenir un peu au tenant du Chittamatra, de l'esprit seul, pour eux, si jamais la conscience, la perception s'interrompait, ben le monde extérieur lui aussi s'interromprait. Tandis que pour la philosophie de la voie du milieu, il n'y a pas une telle dominance de l'esprit, mais simplement une vaste interdépendance, un vaste jeu de relations, aussi bien des phénomènes animés qu'inanimés, qui apparaissent simplement, mais qui n'ont ni l'un ni l'autre d'existence propre. Donc pour résumer à nouveau ces trois épisodes de la mise en mouvement de la roue du Dharma, dans le premier épisode, le Bouddha a démontré par l'enseignement des quatre nobles vérités qu'il n'y avait pas de réalité à cette notion de moi ou d'individu. Dans le deuxième épisode de la mise en mouvement de la roue du Dharma, il a particulièrement insisté sur l'aspect de la vacuité des phénomènes, et c'est là où on trouve les exposés des deux écoles les plus élevées dans les vues philosophiques, celles de l'esprit seul qui ont surtout été exprimées par Asanga et par son frère Vasubandhu, c'est donc la philosophie de l'esprit seul ou du Mshitamatra, et la vue profonde de la vacuité, aussi bien des phénomènes que de la conscience, qui a été exprimée principalement par Nagarjuna et tous ceux qui se sont basés sur les écrits de Nagarjuna. Et puis il y a un troisième épisode de la mise en mouvement de la roue du Dharma, qui est trouvé dans un certain nombre de sutras, et dans lequel on dit que ce n'est pas seulement une simple vacuité, mais que cette vacuité a un aspect de luminosité qui correspond à la nature de la bouddhéité, un aspect de connaissance, et que si on avait mis tant l'accent sur la vacuité dans le deuxième épisode de la mise en mouvement de la roue du Dharma, c'est parce que c'est plus notre attachement à la solidité des choses qu'il faut dissiper, et que nous avons en première étape moins de tendance à nous attacher à la vacuité elle-même. Donc ce qu'il faut d'abord dissiper, c'est l'attachement à la solidité des choses. Mais ensuite, il ne faut pas se contenter d'une simple vacuité, mais voir l'aspect de la connaissance qui est au sein de cette vacuité. Donc en bref, les deux vues les plus élevées du Mahayana ou du grand véhicule sont donc celles de la philosophie de l'esprit seul ou du Shitamatra et celles de la philosophie de Madhyamika ou de la voie du milieu. Quand nous parlons donc de ces différentes interprétations, celle de l'école de Nalanda, qui a donné lieu donc à la lignée venue d'Asanga, la lignée vaste de la conduite, et la lignée venue de Nagarjuna, la lignée profonde de la vue de la vacuité, tout cela, ce n'est pas simplement de l'histoire ancienne. Tous ces écrits sont existants de nos jours, non seulement ces écrits, mais tous les commentaires qui ont été rédigés ensuite sur la base de ces écrits, qui continuent à donner lieu non seulement à une étude, mais aussi à une discussion. Car cette discussion sur l'explication, le sens de ces écrits ne doit jamais cesser. Quant à Atisha Dipankara, celui qui a composé le texte que nous allons étudier, il a reçu ces deux transmissions, bien sûr. La vaste transmission venue d'Asanga et la profonde transmission venue de Nagarjuna. Quand on parle d'ailleurs de ces deux transmissions, elles ne sont pas totalement exclusives l'une de l'autre. Bien sûr, chacune contient les deux aspects de l'immensité et de la profondeur. C'est simplement que l'une met plus l'accent sur l'exposition extrêmement vaste et détaillée des enseignements, c'est la voie vaste d'Asanga, et que l'autre, celle de Nagarjuna, met plus l'accent sur l'aspect profond de la vacuité. Mais bien sûr, toutes les deux sont complètes et contiennent les deux aspects, même s'il y a un accent qui est mis plus particulièrement sur l'un ou sur l'autre. En ce qui concerne donc la façon dont Atisha a reçu ces deux lignées, il a reçu donc l'aspect profond, la lignée de la vue profonde d'un maître qui en tibétain s'appelait Rigpa Kujuk Chonwa, et il a reçu la lignée de la vaste conduite de la part de son maître Sirlingpa. Mais selon cette tradition de Nalanda, il demeure à tout moment extrêmement important de continuer à utiliser l'analyse et l'intelligence et de ne pas simplement prendre les commentaires ou les enseignements comme étant définitifs et acquis, car cela, évidemment, parfois, laisserait la possibilité de s'égarer dans des visions erronées des choses. Par exemple, on a vu très souvent que des disciples écrivent des commentaires qui expliquent ou parfois même corrigent certains commentaires de leur propre maître. Vasubandhu, par exemple, a écrit un vaste commentaire sur l'ornement de la réalisation. Et lorsqu'il en vient dans ce commentaire à parler de la vue métaphysique, il se base sur la vue du Chittamatra, c'est-à-dire la vue de l'esprit seul dont nous avons parlé. En revanche, son disciple, Parpa Chodé, reprenant le commentaire de Vasubandhu et en l'élaborant, lorsqu'il en vient au point d'expliquer la vue philosophique, il dit qu'il est important de la commenter non pas du point de vue du Shitamatra, mais du point de vue plus profond et plus élevé du Madhyamika ou de la voie du milieu. De la même façon, un disciple de Vasubandhu qui s'appelait Dignaga, qui était un maître de logique, dont Vasubandhu disait lui-même qu'il était plus expert que lui en logique, a eu un disciple qui s'appelait Wangchuk, face au nom tibétain, Et ce maître Wang Chuk a eu pour disciple Dharmakirti, qui était l'un des grands luminaires de l'exposé de la logique. Or, Dharmakirti lui-même, dans ses écrits, en continuant à exercer son esprit analytique et son intelligence, sa compréhension, a corrigé certaines des interprétations des écrits de Dignaga qu'avait fait son propre maître, le maître Wang Chuk. Donc, l'on voit qu'il est essentiel de ne pas se départir de son esprit critique, de son intelligence. Et comme d'ailleurs il est dit, il faut s'attacher aux enseignements et non pas à celui qui l'enseigne. Donc, attacher aux paroles, aux mots des enseignements. Et il ne faut pas s'attacher aux paroles, mais au sens. Et dans le sens, il faut s'attacher au sens absolu et pas au sens de la vérité relative. Au Tibet également, de nombreux écrits ont été traduits donc du sanskrit. Mais pareillement, il faut savoir d'où viennent ces écrits et s'ils correspondent à la tradition des commentaires principales. Donc, il faut continuer à exercer son esprit analytique. Donc, nous avons parlé quelque peu hier de la vie d'Atisha. Donc l'auteur de cette lampe pour la voie de l'éveil, c'était un très grand érudit, mais pas seulement quelqu'un qui était érudit en paroles et en mots, c'est quelqu'un qui avait parfaitement accompli ce qu'on appelle les trois entraînements, l'entraînement de la discipline, l'entraînement de la concentration et l'entraînement de la sagesse, et dont l'esprit était imprégné de très grandes qualités spirituelles. Non seulement il avait pratiqué l'enseignement général des sutras, mais aussi il avait, on le voit d'ailleurs dans les derniers versets de ce texte, il avait une profonde expérience et une pratique de la voie des mantras. D'ailleurs, c'était le cas à Analanda. Si l'enseignement général était celui dont nous venons de parler, des quatre vues philosophiques principales du bouddhisme qui étaient examinées, avec un accent particulier bien sûr sur les vues les plus élevées, celles du Shitamatra et du Madhyamika, il y avait un enseignement, mais qui était réservé à quelques disciples particulièrement qualifiés, de l'enseignement des mantras, et souvent sous la forme de chants spirituels de réalisation, ce qu'on appelle des dohas, c'est-à-dire des poèmes chantés ou improvisés, extrêmement profonds, dans lesquels sont expliquées la vue du véhicule des mantras secrets. Alors, si cet enseignement en Ananda était très ésotérique, réservé à quelques disciples qualifiés, au Tibet, c'est un petit peu le contraire. Le fait que le véhicule des mantras se soit très développé, ces enseignements sont devenus presque sur la place publique. Mais donc, ce qui est important de noter aussi, c'est que le Tibet a une situation tout à fait unique dans le fait qu'il a préservé l'ensemble des enseignements des trois véhicules, c'est-à-dire le petit véhicule, le grand véhicule et le véhicule des mantras secrets. Et cela, selon la tradition de Nalanda. En effet, le petit véhicule est représenté par tous les textes qui ont été traduits du Pali, les 37 étapes vers l'éveil, etc. Tous les écrits du Mahayana ont été traduits donc du sanskrit, selon cette nouvelle tradition de Nalanda, dans laquelle on trouve les différentes étapes de la voie, les différents niveaux des bodhisattvas et l'explication de la nature de l'état de Bouddha ou de la bouddhéité. Mais également, on trouve au Tibet l'étude et la pratique de la façon d'unir essentiellement à la fois la connaissance ou la sagesse de la vacuité et les moyens habiles qui permettent de réaliser cette vacuité. Cette union essentielle et indivisible de la sagesse et de la méthode est particulière au véhicule des mantras secrets et elle est trouvée au Tibet où donc un individu peut mettre en pratique de façon unis et intégrer l'ensemble de ces trois véhicules, les deux véhicules des sutras du Hinayana et du Mahayana et le véhicule des mantras secrets. Ces trois sont présents donc dans ce texte de la lampe pour la voie de l'éveil. Pour ce qui est du texte de la lampe pour la voie de l'éveil, il commence donc par un hommage ici au héros pour l'éveil, le Manjushri le juvénile. C'est donc un hommage au Bouddha de la sagesse. Il y a un commenté sur cela. Ensuite, le quatrain suivant, quatre vers. Les deux premiers sont consacrés à l'hommage, à la vénération. Et donc le texte dit « Ayant vénéré avec un profond respect tous les vainqueurs des trois temps, leur doctrine et les aspirants au bien. » Donc c'est l'offrande de l'hommage, de la prosternation, de la vénération à tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur, à ce qu'ils ont enseigné et à tous ceux qui pratiquent ces enseignements. Les deux versets suivants expriment la raison pour laquelle l'auteur a composé ce texte. Et il dit « À la requête de l'excellent élève Shanshub E, c'est donc le roi de l'ouest du Tibet dont nous avons parlé hier, je vais allumer la lampe pour la voie de l'éveil. » C'est donc la déclaration d'intention de l'auteur qu'il va composer ce texte. Pour revenir donc à ce verset dans lequel on parle des vainqueurs des trois temps, le vainqueur, cela se réfère au Bouddha. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu ce qu'on appelle les quatre maras ou les quatre démons. Et on peut envisager ces quatre démons sur un plan grossier ou sur un plan subtil. Sur le plan grossier, c'est ces quatre démons sur un plan grossier ou sur un plan subtil. Sur le plan grossier, c'est les quatre démons liés au voile des émotions afflictives ou obscurcissantes. Et au niveau le plus subtil, c'est les quatre démons associés au voile de l'inconnaissance, c'est-à-dire le voile qui masque la compréhension juste de tout le connaissable. Lorsque l'on parle maintenant des trois temps, donc on disait tous les vainqueurs des trois temps, les trois temps c'est le passé, le présent et le futur, cela signifie que le Bouddha n'a pas été toujours Bouddha, qu'il n'a pas été primordialement éveillé, comme on le trouve parfois dans d'autres niveaux de l'enseignement, mais ici on parle d'un Bouddha qui était tout d'abord dans le passé un être ordinaire, et qui puis graduellement par la voie a dissipé l'ignorance pour un jour devenir éveillé et Bouddha. Donc, si l'on parle des Bouddhas des trois temps, on peut considérer ce passage, cette transformation de l'être ordinaire à la réalisation de la bouddhéité. Les Bouddhas des trois temps, ce sont les Bouddhas du passé, ceux qui ont été éveillés dans le passé, les Bouddhas qui ont atteint l'éveil dans le présent et ceux qui viendront Bouddhas dans le futur. Donc, dans cette dernière catégorie, nous pouvons allègrement nous ranger en pensant qu'un jour, nous pourrons, nous aussi, devenir des Bouddhas. Pour revenir à nouveau à ces notions des Bouddhas des trois temps, si l'on considère notre kalpa, c'est-à-dire l'ère dans laquelle nous vivons, et l'on dit que c'est une ère excellente, parce qu'il y a eu effectivement des Bouddhas qui sont apparus dans cette ère, ce qui n'est pas le cas de toutes les ères, de tous les univers. Donc on dit aussi que c'est un kalpa lumineux, dans lequel il y a une torche ou un flambeau qui éclaire la voie de l'éveil pour les êtres. On dit que dans cette ère ou dans ce kalpa, il y a eu en tout 1000 Bouddhas qui sont apparus et qui apparaîtront. De ces 1000 Bouddhas, 3 sont déjà passés, le troisième étant le Bouddha Kashyapa. Et il y a le Bouddha du présent, c'est-à-dire de notre époque historique, qui est le Bouddha Shakyamuni. Et puis, après le Bouddha Shakyamuni, il y a donc tout le reste des 1000 Bouddhas à venir, le premier de ceux-ci étant Maitreya, qui est le prochain Bouddha. Alors, donc ça c'est lorsque l'on parle des Bouddhas des trois temps. Quand on dit leur doctrine, c'est donc l'enseignement, le Dharma. Il y a plusieurs aspects à ce Dharma. Il y a le Dharma ultime, qui est celui des trois joyaux que nous avons mentionnés hier, qui est le dharma de la cessation de la souffrance, donc du nirvana. Mais du point de vue des êtres ordinaires, il y a deux aspects au dharma. Le dharma de la réalisation, c'est-à-dire la pratique elle-même des trois entraînements à la discipline, au samadhi ou à la concentration et à la sagesse, et de la réalisation qui naît de cette pratique. C'est le dharma de la réalisation. Mais il y a aussi le dharma des écritures, c'est-à-dire le dharma de la transmission, c'est-à-dire les enseignements eux-mêmes qui sont transmis, ça c'est aussi le dharma. Maintenant, pour ce qui est de la sangha, c'est-à-dire les aspirants au bien, ici il s'agit des aspirants au bien qui sont sur le chemin, on ne parle pas du Bouddha pour lequel il n'y a plus rien à apprendre. Alors dans ces aspirants au bien ou dans certaines sanghas, il y a aussi deux aspects, la sangha du Mahayana et la sangha du Hinayana ou petit véhicule, qui rassemble les auditeurs et ce qu'on appelle les Bouddhas par eux-mêmes, en sanskrit, les Shravaka et les Pratika Bouddhas. Alors maintenant, ces trois joyaux, si l'on envisage du point de vue général, on parlera dans l'ordre tout d'abord d'un Bouddha, un enseignant qui va enseigner le Dharma, et puis il y aura ceux qui pratiquent ce Dharma, qui sont donc la Sangha. Donc dans ce point de vue, on a dans l'ordre pour les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Mais si l'on considère ça du point de vue d'un individu particulier qui devient un Bouddha, on voit bien que ça commence par l'enseignement, le Dharma qu'il reçoit. Là, le premier joyau sera le Dharma que l'on va recevoir, étudier, et puis on deviendra un membre de la Sangha, c'est-à-dire quelqu'un qui est un aspirant au bien. Et d'abord d'une Sangha donc de ceux qui s'entraînent sur la voie, et puis un jour on n'aura plus rien à apprendre, on aura atteint au point ultime de la voie, et donc on devient un Bouddha. un être parfaitement éveillé. Du point de vue du chemin individuel, on voit que l'ordre des trois joyaux sera d'abord le Dharma, puis la Sangha et finalement le Bouddha.
Maintenant, en ce qui concerne donc la partie principale de ce texte, de la pratique qu'il implique, nous avons le début du deuxième verset qui dit « Sachez qu'il y a trois sortes de personnes, inférieures, moyennes et supérieures. » Alors ici, dans ce texte, les enseignements vont être expliqués d'un point de vue extrêmement pragmatique, c'est-à-dire en suivant les différentes étapes de la pratique et en considérant que celui qui les entreprend est au niveau du plus simple débutant. Et donc, les différentes étapes de la voie graduelle vont lui être expliquées. Et donc, c'est particulier à cette lampe pour la voie de l'éveil d'Atisha. Par exemple, dans le grand classique du grand véhicule, le Bodhicharyavatara, la marche vers l'éveil de Shantideva, le texte commence par l'explication des bienfaits qu'il y a à engendrer la pensée de l'éveil, la bodhicitta. Et puis, plus tard dans le texte, on parle de l'impermanence, de l'égocentrisme, de la libération, de la compassion, etc. Mais bien que la plupart de ces sujets soient abordés dans le texte, au fil des chapitres, l'ordre des idées n'est pas arrangé dans le but de constituer un manuel de pratique pour le débutant, afin que ce débutant puisse suivre toutes les étapes. De la même façon, dans le Ratnavali de Nagarjuna, on parle des bienfaits du Dharma pour la vie présente et des bienfaits du Dharma pour l'ultime excellence de la bouddhéité. Mais de nouveau, les choses ne sont pas présentées comme un manuel de pratique. Ici donc, on part au début du point de vue de celui qui ne sait rien, ne s'est pas transformé et va s'engager dans cette pratique. Le but étant bien sûr, éventuellement, d'atteindre à l'éveil, à la bouddhéité. Et ce qui doit être actualisé au fil de la voie, eh bien, c'est ce qui va être expliqué et les méthodes pour effectuer cette transformation vont aussi être exposées. Alors, pourquoi une voie qui s'applique à trois sortes de personnes inférieures, moyennes et supérieures? Cela peut bien sûr être des individus différents, ayant des capacités différentes, mais ça correspond aussi à trois étapes de notre propre croissance personnelle. Un individu faculté inférieure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a bien sûr pas à voir avec nécessairement des facultés intellectuelles ou physiques, mais par rapport à la motivation, le domaine de pratique auquel cette personne va s'appliquer. À savoir que cette personne va souhaiter principalement se libérer des mondes inférieurs du samsara, renaître dans les mondes supérieurs du samsara, mais il n'a pas encore l'idée ou la grandeur d'âme en quelque sorte, pour souhaiter se libérer complètement du samsara. Donc, d'un point de vue, son esprit est petit. Et ça peut être non seulement le cas d'une disposition d'un individu particulier, mais aussi notre cas au début du chemin. Ensuite, nous avons les individus dits moyens, et moyens par rapport, bien sûr, aux petits et aux grands qui l'encadrent. Et c'est une intensité de courage moyenne. Parce que là, on a la détermination et le courage de se libérer de l'ensemble du samsara. Donc, c'est à ça qu'on veut échapper. Et parmi les deux voiles qui nous empêchent d'atteindre à l'éveil, le voile formé par les émotions obscurcissantes d'une part, et le voile plus subtil qui masque le connaissable dans son ensemble, qui nous empêche de connaître la nature ultime des choses, ici, dans cet individu moyen, c'est principalement le voile des émotions obscurcissantes qu'il va dissiper. Enfin, l'individu supérieur est appelé ainsi parce que lui, il va se débarrasser du voile le plus subtil, le voile qui masque la connaissance. Il va développer l'immense compassion du grand véhicule et donc il va développer toutes les qualités de l'ensemble du chemin. Alors, cet individu est supérieur parce que son but, la bouddhéité, est insurpassable. D'un autre côté, quand on passe de la voie de l'individu inférieur au moyen au supérieur, on ne rejette pas les étapes précédentes, elles sont naturellement incluses dans les étapes suivantes. C'est-à-dire que se libérer des royaumes inférieurs du samsara, évidemment, est inclus dans le désir de se libérer de tout le samsara en général. Et se libérer de tout le samsara en général est bien sûr inclus dans l'idée de libérer tous les êtres du samsara. Donc ces trois étapes reflètent aussi les progrès que nous faisons au long du chemin. Dans le Lanka Avatara Sutra, le sutra de la visite à Lanka, on parle d'une multiplicité de véhicules, c'est-à-dire de véhicules pour atteindre à l'état de Bouddha ou à la libération, selon les cas. On parle du véhicule des devas ou des dieux, on parle du véhicule de Brahma, on parle du véhicule des êtres humains. Donc tout ça, on le regroupe sous le nom de véhicule des devas et des humains.
Et puis on parle du véhicule des auditeurs et des Bouddhas solitaires, les Shravaka et les Pratikya Bouddhas, c'est-à-dire les disciples du petit véhicule. Et puis on parle aussi du véhicule des Bodhisattvas et de toutes sortes d'autres véhicules. Ces différents véhicules comportent à des niveaux successifs de libération de la souffrance. On distingue en effet trois types de souffrances. Les souffrances qui ne cessent de s'ajouter les unes aux autres. La mort de quelqu'un survient sur la maladie d'un autre. La souffrance du changement, c'est-à-dire que ce qui apparaît comme étant un bonheur, en fait, recèle des sources de tourment et va se transformer et ne va pas demeurer. C'est un bonheur, ça se réfère à un bonheur non pas immuable, mais transitoire, éphémère. Et puis, il y a le troisième type de souffrance, qui est la souffrance qui demeure et qui est partout tant que l'ignorance est là. Donc maintenant, si l'on voit cette première type de souffrance, vouloir s'en libérer, eh bien, en accomplissant des actes vertueux, vouloir se libérer de ces souffrances qui s'ajoutent les unes aux autres dans le samsara et qui sont particulièrement intenses dans les royaumes inférieurs du samsara, c'est le véhicule de ceux qui veulent se libérer de ces états de misère, et donc c'est le véhicule des dieux et des hommes. Ceux maintenant qui veulent se libérer de la souffrance du changement, c'est-à-dire la souffrance qui vient du fait que nous prenons parfois ce qui est un germe de souffrance pour un état de bonheur, et qui, pour se libérer de cela, va s'engager dans les différentes étapes de la contemplation. On parle des 5 niveaux de contemplation ou de dhyana, les 4, et ainsi que les 4 entrées dans différentes sortes d'équanimité qui nous emmènent jusqu'à un état qu'on appelle le sommet du samsara. C'est le point le plus élevé auquel on peut arriver sans être toutefois libéré du samsara. Et puis le troisième type de souffrance, ceux qui veulent s'en libérer, la souffrance qui permet toute chose, c'est ceux qui veulent atteindre à la bouddhéité, c'est le but ultime. On peut également relier cette libération des 3 types de souffrance à un verset d'Aryadeva dans le texte qui s'appelle les 400 versets, dans lequel on dit tout d'abord il convient de se débarrasser de tous les actes non vertueux, au milieu il convient de se débarrasser de tout attachement au soi, et à la fin il convient de se débarrasser de tout attachement aux vues conceptuelles. Donc si l'on envisage ça sur le point de vue de ces 3 types de souffrance, pour se débarrasser de tous les actes non vertueux, non méritoires, c'est le moyen de se débarrasser de ce qu'on appelle la souffrance qui vient s'ajouter à la souffrance, c'est-à-dire le cycle inépuisable des souffrances du samsara. Et pour cela donc, si l'on souhaite se débarrasser de ce type de souffrance, et que l'on est là d'avoir été constamment le jouet de ces souffrances, eh bien on va reconnaître que pour s'en débarrasser, il convient d'éviter les 10 actes non vertueux du corps, de la parole et de l'esprit, et de cultiver les actes vertueux. Et donc, ça nous permettra ainsi d'éviter de renaître dans les royaumes inférieurs du samsara. Donc, le deuxième vers qui dit « Au milieu, on va se débarrasser de l'attachement au soi, voilà, l'identité du soi ». Là, ça se réfère à 2 choses, bien sûr, comme nous en avons parlé déjà, le soi de la personne et le soi des phénomènes. Donc, pour commencer, l'étape la plus grossière et la première, se débarrasser du soi de la personne, cela correspond à se débarrasser des émotions obscurcissantes. En effet, ce sont ces émotions obscurcissantes, les kleshas, qui sont la source, qui nous font prendre la souffrance pour du bonheur, c'est-à-dire un bonheur temporaire comme étant quelque chose d'immuable, et qui est aussi l'une des causes principales de la souffrance qui est là potentiellement omniprésente dans le samsara tant que l'ignorance et que les kleshas n'ont pas été dissipés. Donc pour cela, on va commencer, comme le font les vues préliminaires ou les plus inférieures du bouddhisme, à se débarrasser de la notion d'identité dans la personne, dans l'individu. Et donc on va méditer sur le non-soi de l'individu. Et de ce fait, on se débarrassera peu à peu des kleshas, des émotions obscurcissantes qui naissent de cet attachement au soi de la personne et qui sont cause de souffrance. Et puis ensuite, on va s'attaquer au voile qui masque le connaissable, et pour lequel il importe de méditer sur la vacuité. Et ainsi, peu à peu, on se débarrassera des 2 aspects de cette notion de soi ou d'identité, celle des phénomènes et celle de la personne. Pour cela, il faudra savoir unir à la fois le shamatha, le vipassana, c'est-à-dire le calme intérieur et la vue pénétrante. Enfin, troisièmement, pour le troisième vers qui dit finalement, il faut se débarrasser de l'attachement à toutes les vues conceptuelles. Et cet attachement à la vue conceptuelle, c'est surtout la dualité la plus subtile qui ne peut être dissipée que par une méditation profonde sur la vacuité, afin de se débarrasser ainsi de tous les aspects grossiers et subtils des voiles qui nous empêchent d'atteindre à l'éveil. Et donc là, pour ce troisième aspect, qui consiste à se débarrasser de ces deux voiles, eh bien selon les dispositions et les facultés des individus, on a maintenant les véhicules des auditeurs, des Bouddhas solitaires et finalement des Bodhisattvas, du grand véhicule qui mène de façon ultime à la bouddhéité. Donc le texte se poursuit, déjà disant je vais clarifier leurs caractéristiques et décrire ce qui les distingue. Il commence par expliquer donc la voie des individus inférieurs, c'est-à-dire ceux qui ont la plus petite courage. Et il dit quiconque, par quelque moyen que ce soit, est concerné pour lui-même par les seules joies de l'existence cyclique est connu comme une personne inférieure. Alors, quelque moyen que ce soit, cela veut dire tous les moyens qui vont nous permettre de nous libérer des souffrances qui s'ajoutent aux souffrances, c'est-à-dire le cycle ininterrompu des souffrances du samsara. Et ces moyens, c'est principalement éviter les 10 actes non vertueux et cultiver les 10 actes vertueux correspondants. Le but et le résultat, c'est donc d'atteindre au bonheur du samsara, c'est-à-dire le bien-être relatif des êtres humains et des êtres célestes, les devas, bien sûr qui restent prisonniers du samsara, mais qui néanmoins, en comparaison des souffrances des mondes inférieurs, jouissent d'un bonheur relatif. Et donc, leur seul but est de se libérer eux-mêmes de ces souffrances inférieures du samsara et qui n'ont pas d'autre but que d'arriver aux états supérieurs du samsara. C'est donc un but qui est très limité et ce but limité vient aussi d'un état, d'une largeur d'esprit qui elle-même reste encore très étroite. Alors, pour en revenir à ces méthodes qui nous permettent de nous libérer du samsara, ce sont donc les méthodes qui consistent à éliminer les causes principales qui nous font tomber ou renaître dans les royaumes inférieurs, inférieurs dans le sens que c'est là où les souffrances sont le plus intenses, et en contre-renaître dans les royaumes supérieurs où les souffrances sont moins intenses et où il y a un bien-être éphémère, mais qui malgré tout peut être vécu dans le monde des êtres humains et le monde des êtres célestes ou des devas. Donc pour cela, il s'agit encore une fois d'éviter les 10 actes non vertueux, c'est-à-dire les 4 actes non vertueux du corps, qui consistent à ôter la vie, c'est-à-dire à tuer, à prendre ce qui n'est pas donné, c'est-à-dire à voler, et à s'engager dans une conduite sexuelle incorrecte. Pour ce qui est des 4 actes non vertueux de la parole, c'est le mensonge, c'est les paroles dures qui créent de la souffrance à autrui, c'est la calomnie qui tente à diviser les êtres, ceux qui étaient réunis, et c'est aussi le bavardage inutile qui est cause pour augmenter les émotions négatives et pour ne pas utiliser notre temps de façon constructive. Pour ce qui est des 3 actions négatives de l'esprit, c'est tout d'abord l'envie, la jalousie, le fait de vouloir s'approprier quelque chose, par exemple, qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est deuxièmement la malveillance, c'est-à-dire vouloir souhaiter de la souffrance à autrui, vouloir sciemment nuire à autrui. Et c'est enfin les vues erronées quant à la nature des choses et de la réalité. Alors, la contrepartie, c'est ce qu'on appelle les 10 actions vertueuses ou les 10 actions pures, qui consistent à se réfréner, s'interdire de commettre les 10 actes non vertueux et s'interdire de le faire dans une situation où, précisément, on serait confronté à la possibilité de les accomplir. C'est-à-dire d'être trouvé dans des circonstances où, effectivement, on pourrait tuer une personne ou un animal et se réfléchir aux conséquences très néfastes de cet acte de tuer, notamment la souffrance de la mort, le désir que les êtres ont de rester en vie, et à la lumière de cela, s'empêcher de commettre cet acte. Ne pas voler, ce n'est pas ne pas voler en général, c'est ne pas voler quand on est dans une situation où on pourrait voler, on pourrait prendre quelque chose, s'approprier quelque chose qui appartient à autrui et qui ne nous a pas été donné, et on le fait en considérant les effets néfastes de cet acte, en considérant que cet acte nuit à autrui, et cause de souffrance, et donc en considérant en général tous les effets néfastes envers autrui de nos actions, on s'interdit de les accomplir. C'est par cela qu'on entend se réfréner d'accomplir, de perpétuer des actes non vertueux. Et en plus, tout ce qui va résulter en de telles souffrances que nous aurons provoquées ou causées pour autrui, cela va éventuellement se retourner contre nous sous la forme de souffrances dont nous ferons nous-mêmes l'expérience. Donc, parmi les différentes formes de discipline, on appelle ça la discipline qui consiste à rejeter les 10 actes non vertueux. Et les résultats viennent en conformité avec cela, à savoir une renaissance dans les royaumes supérieurs. Car tout dépend de causes et de conditions. Que l'on renaisse dans les mondes inférieurs, dans les mondes supérieurs, ce n'est jamais ni le fruit du hasard, ni le fruit de la volonté de quelqu'un d'autre, mais c'est les conditions et les causes que nous aurons nous-mêmes construites. Il est donc essentiel de reconnaître cela pour tel. Quand on parle de cause à effet ici, ce n'est pas simplement les causes à effet générales, que si on appuie sur un bouton, il y aura tel ou tel résultat, que si l'on fait ceci ou cela, on aura tel ou tel résultat de façon générale. Parce que ce genre de cause à effet est reconnu même par les animaux. Les animaux peuvent être entraînés à accomplir des actes quand ils savent qu'ils vont avoir une récompense ou une punition. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est les lois de cause à effet liées à nos intentions, positives ou négatives, aux résultats en termes de bonheur et de souffrance, et donc ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire les résultats en termes de bonheur et de souffrance de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil parce qu'à la différence des lois de cause à effet dans le domaine des lois physiques, par exemple, eh bien c'est pas quelque chose qu'on peut voir directement, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à notre perception. Et la façon dont le karma opère n'est pas directement accessible à nos perceptions. Par exemple, on sait que selon le karma, que si l'on jouit maintenant d'un bonheur temporaire, c'est le résultat d'avoir accompli des actes vertueux dans le passé. Mais dire quand, de quelle façon, quel acte vertueux, dans quelle existence, quels sont tous les préliminaires qui ont servi à amener ce bonheur que nous avons maintenant, eh bien ce n'est pas quelque chose qui est visible et qui est accessible à nos perceptions. C'est pour ça qu'on dit que cela, un être omniscient comme un Bouddha, est capable de connaître toutes les causes et les conditions, les temps, les circonstances, les lieux, la nature des actes qui ont mené à telle souffrance ou à tel bonheur. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène extrêmement caché. Et alors le phénomène extrêmement caché, nous avons dit hier qu'il y avait les phénomènes que nous pouvions voir directement, les phénomènes qu'on pouvait déduire par déduction, et ceux qui étaient totalement cachés à nos sens. Et à notre perception et à notre intellect. Donc pour cela, il faut s'en remettre à une autorité d'un tiers, c'est-à-dire le témoignage valide de quelqu'un comme le Bouddha. Mais pour cela, il ne suffit pas de se dire qu'on va prendre à la lettre tous les écrits et toutes les paroles du Bouddha. On sait que le Bouddha s'est exprimé de façon différente en s'adressant à des êtres de capacités différentes. Donc il faut examiner si ces paroles du Bouddha appartiennent à la vérité conventionnelle ou à la vérité ultime. Il faut pour cela que l'on puisse totalement faire confiance à une parole particulière du Bouddha, et lui-même nous a encouragé à examiner par notre propre réflexion ces paroles. Il faut que ces paroles ne nuisent pas à un raisonnement valide, qu'elles ne soient pas en contradiction avec notre expérience vécue, et qu'elles résistent à une analyse ultime, et qu'il n'y ait pas de contradiction directe ou indirecte, de contradiction extérieure ou interne. Donc tout cela donnera... on pourra dire à ce moment-là que ces paroles du Bouddha représentent bien la vérité telle qu'elle est, parce qu'aucun raisonnement ni aucun fait d'expérience ne vient contredire ces paroles du Bouddha. Aussi, une autre chose pour laquelle on peut faire confiance aux paroles du Bouddha, c'est que c'est un individu authentique. Par cela, nous pouvons dire que même si nous ne pouvons pas nous-mêmes directement savoir quels sont les karmas passés qui ont fait que nous ayons telle ou telle expérience, et que le Bouddha, lui, pourra nous décrire, mais lorsqu'il nous le décrit, on sait par expérience que par ailleurs, le Bouddha est un être authentique, à savoir que dans la vie courante, dans toutes ses actions, ce n'est pas quelqu'un qui ment, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à tromper les autres, mais qu'au contraire, dans toute la mesure du possible que nous pouvons vérifier, nous avons toujours remarqué qu'il disait la vérité et que son but n'était pas de tromper, mais de guider les êtres. Donc lorsqu'il en vient à exprimer des vérités qui ne sont pas immédiatement accessibles, sur la foi de tout ce que nous avons vu par ailleurs, de choses que nous pouvons vérifier, il est naturel que nous lui faisions confiance. Donc en bref, les lois du karma sont extrêmement subtiles et donc il faut pour les comprendre faire confiance à quelqu'un qui a plus de science que nous, c'est à l'omniscience de la bouddhéité. Et c'est là ce qu'on appelle prendre refuge, c'est-à-dire faire confiance à quelqu'un, à un être qui a plus de connaissances que nous. Et donc nous nous en remettons à cette sagesse, à cette connaissance, et c'est bien cela qu'on appelle prendre refuge.
Donc pour continuer cette approche l'individu aux facultés inférieures, c'est donc celui qui va, au travers d'une conviction quant au mécanisme des lois de cause et d'effet, va donc prendre refuge, c'est-à-dire qu'il va faire confiance à celui qui enseigne la façon d'éviter la souffrance, la façon d'acquérir le bonheur, en mettant en œuvre, en utilisant justement ces lois karmiques de cause et d'effet. Donc de cela, la motivation pour prendre ainsi refuge et à vouloir s'échapper du samsara vient bien sûr de la réflexion sur les souffrances du samsara. Si nous ne sommes pas conscients des souffrances de samsara, comment pourrions-nous éprouver le désir de nous en libérer ? Donc cela doit susciter un sentiment de frayeur, mais qui est une saine frayeur, à savoir qu'elle va ensuite nous inspirer un très puissant désir de se libérer du samsara. Et ça, c'est une motivation qui est extrêmement importante. Cette peur de la souffrance qui conduit à un désir de s'en sortir est essentielle et nécessaire, bien sûr. Et également de penser que ces souffrances du samsara, elles ne sont pas des souffrances théoriques et lointaines, mais elles sont là même, à notre porte. Et devenir conscient de l'imminence de ces souffrances des royaumes inférieurs naît de la méditation sur l'impermanence des choses. Et l'impermanence, bien sûr, a plusieurs aspects. Lorsque nous avons parlé des quatre vérités, la vérité de la souffrance, des causes de la souffrance, de la cessation et de la voie, on peut appliquer la notion d'impermanence à chacune de ces aspects. L'impermanence de la souffrance, de ses causes, etc. Et il y a aussi plusieurs types d'impermanence. Il y a l'impermanence grossière, c'est des changements que l'on voit à l'évidence, à l'extérieur. Mais ce qui est le plus important ici, c'est l'impermanence subtile. C'est à savoir le fait que continuellement les choses changent et que jamais, ne serait-ce qu'un instant, le plus infinitésimal, une chose ne pourrait rester identique à elle-même deux instants successifs, aussi rapprochés soient-ils. Cela reflète une continuité dans ce flot de transformation, et cette impermanence subtile nous montre que rien ne peut être permanent. Donc cela, naturellement, conduit à une plus grande prise de conscience des effets de cette impermanence subtile auquel rien n'échappe, à savoir la mort. Et donc, penser à la mort et voyant qu'il n'y a rien qui soit stable et que les choses ont une continuité, se poursuivent au jeu de cause à effet, fait se demander ce qui va advenir de cette continuité. Et donc, envisager les notions d'existence successive. Si l'on commence à envisager des existences successives, on va se demander comment seront-elles ? Quelle sera leur nature ? Seront-elles heureuses ou malheureuses ? Et donc, on va se sentir maintenant concerné par les causes qui pourraient faire qu'en sorte que cette existence future soit heureuse ou celle qui pourrait faire qu'elle soit malheureuse. Également, puisque nous avons en ce moment le moyen de réfléchir à cela, que nous avons le moyen d'agir sur cela, cette opportunité est extrêmement précieuse. Donc ça nous mène maintenant à réfléchir à la valeur de l'existence humaine, de se dire que si nous avons maintenant la liberté de nous engager dans une réflexion, dans une pratique, que toutes les conditions favorables à cette réflexion et cette pratique sont réunies. Donc ce moment tout à fait spécial, extraordinaire, très riche dans potentiel, si nous le gâchons en nous désintéressant de ce qui pourrait nous arriver dans le futur, en nous désintéressant des lois du karma, c'est vraiment gâcher une opportunité aussi précieuse et c'est fort dommage. Donc il faut utiliser chaque instant de cette existence précieuse pour mieux comprendre, mettre en pratique ces enseignements, en ayant donc le désir pragmatique d'éviter les souffrances dans nos existences futures. Alors, pour cela, il faut également penser encore une fois aux défauts, aux problèmes que nous allons vivre dans les mondes inférieurs. Il faut penser aux bienfaits du dharma, de l'enseignement, du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Il faut également garder à l'esprit les moyens d'acquérir ce bien-être et d'échapper au samsara, à savoir d'éviter les actes destructeurs, nuisibles, et de pratiquer les actes constructeurs ou positifs. Et donc, tout cela, c'est ce qu'on appelle la mise en pratique du refuge, les préceptes, en quelque sorte, qui accompagnent cette prise du refuge. Donc, afin de transformer cet état, afin de nous sortir de cet état conditionné du monde de la souffrance, du samsara, et d'effectuer une transformation intérieure en développement, cette confiance qui caractérise la prise du refuge, c'est quelque chose qui doit se faire peu à peu par l'expérience, en se familiarisant avec cette nouvelle façon de voir les choses.
Et c'est précisément ce processus de familiarisation qu'on appelle méditation. La méditation peut à plusieurs aspects, elle peut être d'abord une réflexion, une analyse de, par exemple de ce qui se passe autour de nous dans le monde, de voir avec objectivement, de comprendre quelles ont été ici et là les causes de souffrance des êtres, les causes de bien-être relatif. C'est réfléchir également à nos propres expériences, en déduire des conclusions vis-à-vis de ces lois de cause à effet qui s'appliquent au bonheur et à la souffrance. Et il est naturel dans ce contexte de s'inquiéter aussi de ce qui pourra devenir de notre conscience après la mort. Et même si l'on n'a pas cette croyance ou conviction ou même soupçon qu'il puisse y avoir des existences futures, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit le nombre d'années qu'il nous reste à vivre, il est souhaitable que nous les vivions de façon excellente, en acquérant une plénitude pour nous-mêmes, en développant des qualités humaines, de la sagesse, de l'altruisme. Car c'est le propre de l'intelligence humaine de pouvoir ainsi développer de façon considérable, immense, l'altruisme, une qualité que l'on ne trouve pas, par exemple, chez les animaux. De la même façon, l'intelligence humaine peut avoir, à cause de la magnitude même de sa faculté intelligente, des effets dévastateurs pour soi-même et pour autrui, si on utilise cette intelligence pour nuire à autrui. Et donc, ce qui compte, même en limitant notre analyse à cette vie même, c'est de ne pas se trouver au moment de la mort avec d'intenses regrets sur la façon dont nous avons mené notre vie, sur les actes que nous avons commis, sur les pensées que nous avons eues. Car ça ne sert à rien à ce moment-là d'avoir ce tel regret. On ne peut pas revenir en arrière. De même, le temps, nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous ne pouvons pas empêcher le temps de s'écouler. Nous ne pouvons pas faire revenir le temps en arrière. Par contre, ce qui est en notre pouvoir, c'est la façon dont nous allons utiliser le temps. C'est la façon dont nous allons utiliser notre existence. Et donc, ce que nous faisons dans le présent, ainsi que le futur, cela est entre nos mains. Nous devons aller dans cette utilisation, dans la direction qui va nous apporter une vie de plénitude, de sagesse, de paix intérieure et d'altruisme. Et aussi, pourquoi nous préoccuperions-nous des états d'existence futurs? On vous dirait, ça ne me concerne pas, je n'ai aucune idée de cela, la mort va survenir, je n'aurai aucune mémoire de cette existence présente, pas plus que j'ai de mémoire des existences passées, car il y a une sorte de blanc entre les deux au moment de la mort. Mais pourtant, regardons quand nous nous endormons le soir. Pendant le sommeil, nous savons que nous perdons conscience, même s'il y a une conscience très subtile qui se poursuit, tout d'ailleurs comme il y a une conscience subtile qui se poursuit dans l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Donc pendant le sommeil profond, nous ne sommes pas vraiment conscients. Il y a cette période intermédiaire d'inconscience. Mais néanmoins, cela ne nous empêche pas de nous préoccuper de ce qui va nous arriver le lendemain, de préparer ce lendemain afin que ce lendemain soit plutôt heureux que malheureux. Sur une échelle un peu plus vaste, on comprend que dans la mesure où on considère la possibilité d'une continuité du flot de conscience, d'un état d'existence à l'autre, eh bien que l'on se préoccupe de quelle sera cette vie, cette existence d'être futur, sera-t-il heureux ou malheureux? Et qu'en conséquence, tout comme on ne va pas se dire « ça m'est complètement égal si je souffre demain parce que de toute façon je vais dormir entre les deux et je suis inconscient pendant l'espace d'une nuit », eh bien même si on n'a pas de mémoire immédiate des vies passé et donc dans une vie future on ne se rappellera pas de cette vie présente, cela ne nous empêche pas de nous préoccuper fortement et à juste titre du bon qu'on pourrait faire l'expérience dans une vie future. Tout cela, ce genre de préoccupation, c'est ce qu'on appelle les préoccupations du débutant, de l'être inférieur, mais qui sont aussi communes aux êtres moyens et aux êtres supérieurs, c'est-à-dire qu'eux vont avoir quand même cette préoccupation comme base. Mais ils ne vont pas se limiter à cela, comme c'est le cas pour l'être de faculté inférieure. Donc maintenant, en ce qui concerne l'individu moyen, le verset, le troisième quatrain, dit « Quiconque se détourne des joies de l'existence, s'abstient des actions mauvaises et se préoccupe uniquement de sa propre quiétude, est connu comme un individu moyen. » Cet individu moyen, c'est celui qui va non seulement souhaiter se libérer des royaumes inférieurs du samsara, ceux où la souffrance est la plus intense, mais qui va souhaiter se libérer du samsara tout entier, y compris les joies éphémères et transitoires des royaumes supérieurs. Et pour cela, donc, il faut qu'il aille beaucoup plus en profondeur dans les causes de la souffrance, pas simplement les 10 actes non vertueux, mais aussi au sein de la conscience, les causes qui naissent de l'origine même de la souffrance, à savoir les karmas subtils et plus subtils encore, ce qui a motivé nos actes, à savoir les émotions obscurcissantes ou les émotions qui troublent notre, qui détruisent notre paix, les kleshas. Pour arriver à ce but, il faudra s'entraîner à ce qu'on appelle les trois types d'entraînement. L'entraînement dans la discipline, qui consiste à éviter les actes néfastes et à accomplir tous les actes positifs. L'entraînement à la contemplation ou à la concentration, qui nous permet d'avoir un outil fiable pour progresser sur le chemin. Et surtout l'entraînement à la sagesse ou à la connaissance, car c'est elle et elle seule qui nous permettra de nous débarrasser des aspects les plus subtils des lois du karma et des aspects les plus subtils des kleshas, des facteurs mentaux obscurcissants. Ces aspects les plus subtils, ce sont l'attachement à la notion de soi. Nous avons vu qu'il y a deux types de soi ou d'identité. Et le plus on se débarrasse de ces attachements à la notion de soi, le plus on se débarrasse de l'ignorance. De même façon qu'il y a plusieurs niveaux de grossiers et subtils dans cet attachement à la notion de soi personnel et de soi des phénomènes, l'ignorance également donc a plusieurs niveaux de subtilité. Mais pour se débarrasser totalement de l'ignorance, c'est-à-dire de ses aspects les plus subtils, il est indispensable d'avoir une réalisation parfaite de la vacuité. Et cela s'applique aussi bien pour le soi de la personne que le soi des phénomènes. Ce qui veut dire que pour arriver à leur but respectif, cette pensée est exprimée par Nagarjuna et son fils spirituel Aryadeva, pour arriver à leur but respectif, aussi bien les pratiquants du petit véhicule, les auditeurs et les bouddhas solitaires, que les pratiquants du grand véhicule, tous ont besoin de cette compréhension correcte de la vacuité d'existence propre des phénomènes et du soi. Donc, l'ignorance et la confusion mentale étant la cause première et ultime du samsara, il faut s'en débarrasser. Et la seule façon de s'en débarrasser totalement, c'est par shunyata, la vacuité d'existence propre. C'est donc l'entraînement de la sagesse, de la connaissance qui permettra d'éliminer cette pensée, ces concepts de soi et donc d'arriver à la réalisation du non-soi qui nous fera éliminer tous les aspects les plus subtils de nos attachements duels, de la confusion mentale. Et cette élimination, c'est ce qu'on appelle la libération. Cette voie, celui qui, pour son propre bien, veut ainsi se libérer de tout le samsara, c'est ce qu'on appelle la voie de l'individu de faculté moyenne, qui comprend bien sûr la voie précédente, mais qui n'a pas encore la voie de l'individu supérieur. Donc le but de celui qui veut ainsi se libérer du samsara est parmi les trois types de souffrance, celui qui cherche à se libérer de la souffrance qui est potentiellement omniprésente dans le samsara tant que nous ne sommes pas débarrassés de l'ignorance. Donc cette souffrance qui, même invisible, imprègne toutes choses, tous les phénomènes. Car en effet, le désir de se débarrasser de la souffrance évidente, ce qu'on appelle la souffrance qui vient souffrance après souffrance, celle dont nous faisons l'expérience de façon visible, la souffrance grossière, elle existe chez tous les êtres vivants, les animaux notamment, bien sûr, veulent éviter ce qui les fait souffrir. Et également, donc, rien de spécial à une voie qui mène à la libération, de reconnaître cette souffrance grossière. La souffrance du changement, c'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi bienheureuses qu'elles en ont parfois l'air, c'est-à-dire que même un bonheur conditionné, en fait, porte en lui les germes de futures souffrances, c'est quelque chose qui n'est pas non plus spécifique à l'enseignement du Bouddha. On trouve ça dans la plupart des philosophies ou des autres traditions spirituelles. Ce qui est plus particulier à l'analyse de la voie du bouddhisme, c'est l'analyse de cette souffrance omniprésente tant que le monde conditionné n'a pas été débarrassé de l'ignorance. Et donc là, c'est de comprendre que tant que nous sommes sous le joug des émotions obscurcissantes, nous sommes également le jouet des karmas qui naissent de cela, et que donc il n'y a pas d'issue à la souffrance tant que nous n'avons pas débarrassé de l'ignorance à sa racine même. Et si l'on prend conscience de cela, eh bien nous éprouverons une répulsion naturelle à l'égard des kleshas, des émotions négatives, obscurcissantes, et nous dirons comment pourrais-je m'en libérer ? Ne serait-il pas bon que je puisse m'en libérer ? Et pour cela, donc, afin d'arriver à ce but, il faut comprendre les différents aspects de plus en plus subtils de la nature ultime des phénomènes, notamment la nature de la permanence, de l'absurde souffrance du monde conditionné, le fait que dans ce monde conditionné, on ne saurait trouver aucune entité qui soit douée d'un soi, d'une existence autonome, intrinsèque, et finalement arriver à la compréhension ultime de l'interdépendance qui est synonyme de vacuité d'existence propre. Maintenant, pour en revenir de nouveau à cette impermanence qui va nous faire mieux comprendre à quel point il est nécessaire de se libérer du samsara, il y a plusieurs sortes, encore une fois, d'impermanence. Il y a l'impermanence grossière, l'impermanence grossière qui se manifeste lorsqu'un phénomène grossier, c'est-à-dire visible, est interrompu. C'est-à-dire que la continuité d'un phénomène brusquement cesse lorsqu'il est confronté à des causes et des conditions qui sont adverses à cette continuité et qui donc la font cesser. Par exemple, la mort fait cesser la continuité momentanée et constamment changeante de notre corps, mais qui malgré tout avait une certaine unité dans cette continuité. Donc là, lorsqu'une continuité est interrompue par un obstacle, par un facteur qui s'oppose à sa perpétuité, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'impermanence grossière. Cette impermanence grossière, elle dépend donc de causes et de conditions extérieures qui viennent interrompre le flot d'un continuum, le corps ou un objet que l'on casse ou quelque chose d'autre, qui jusqu'à maintenant s'est maintenu plus ou moins tel quel, mais à cause de causes et de conditions extérieures, cet objet va cesser, va être détruit ou va s'interrompre. Par contre, il y a la permanence subtile, c'est très différent. Chaque instant qui suit le précédent, il n'a pas besoin d'une cause extérieure. Il n'y a rien qui détruise l'instant présent. C'est l'instant présent qui, dès qu'il se manifeste, porte en lui le germe de sa propre destruction. Il est par nature même impermanent. Il est par nature même voué à ne pas demeurer plus de deux instants successifs. Il est par nature même voué à disparaître. Donc là, au sein de la permanence subtile, l'impermanence est intrinsèque aux phénomènes. Elles n'ont pas besoin d'être détruites par des phénomènes extérieurs. Ils n'ont pas besoin d'autres causes extérieures. Leur propre nature est impermanente et vouée à la destruction. Donc, puisque cette impermanence est telle que le changement se produit, nous ne pouvons jamais échapper à cette impermanence. On ne saurait d'en trouver dans le monde conditionné de joie ou de souffrance durable tant que nous ne sommes pas libérés de l'ignorance. Nous sommes à l'évidence dans le samsara conditionné, nous sommes sous l'influence à la fois de cette impermanence subtile et grossière, nous sommes également sous le pouvoir des émotions obscurcissantes, des kleshas. Le support des souffrances qui vont suivre le fait que nous sommes l'esclave de ces émotions obscurcissantes, ce sera les cinq agrégats. Les cinq agrégats du physique et mentaux. Et c'est ça qui va être le support de la souffrance, mais c'est aussi ça qui perpétue la souffrance dans la mesure où ces cinq agrégats sont aussi ceux qui suscitent et perpétuent les émotions obscurcissantes. Tout ça, en fait, commence avec l'ignorance, avec une mauvaise compréhension de la réalité, puisque nous assumons dans cette réalité l'existence d'entités dans les phénomènes, d'entités dans la personne. Et donc, c'est bien par l'ignorance que tous nos tourments commencent. Cette ignorance va donner lieu à ce qu'on appelle les 12 liens interdépendants qui conduisent de façon ultime à la naissance et à la souffrance, à savoir l'ignorance tout d'abord, et puis le nom, la forme, les sensations, les perceptions, le jugement de choses comme étant bonnes, mauvaises ou neutres, l'impulsion à prendre ou à repousser, et puis l'attachement, le désir, et puis le désir qui continue nous amène à vouloir perpétuer notre existence dans le samsara, et puis la naissance qui est suivie de la vieillesse, la maladie et la mort. Et donc, on voit que ces différents chaînons de l'interdépendance se terminent par la souffrance et commencent par l'ignorance. Mais quand on songe également, qu'est-ce que c'est que cette ignorance? C'est simplement, l'ignorance n'est qu'une erreur, c'est une mauvaise façon de percevoir les choses. Les kleshas eux-mêmes procèdent aussi d'une perception erronée du monde et de notre pensée, d'une perception erronée des choses. C'est la seule cause qui permet l'éclosion de ces facteurs mentaux obscurcissants. Et donc, si l'on se rend compte de cela, naturellement, on verra que ce sont des toxines mentales et que, sous tous les points de vue, il serait souhaitable de nous en débarrasser. Ils n'ont aucune qualité. Bien sûr, si l'on pense que les émotions obscurcissantes sont des choses très désirables et agréables, on ne conçoit pas ce désir de s'en débarrasser. Mais si l'on en prend conscience de leur nature véritable, à ce moment-là, on voit qu'elles n'ont aucun aspect désirable et que nous n'avons strictement aucune raison de continuer à nous embarrasser de ces toxines mentales qui ne font que causer des souffrances. Donc pour cela, il faut se débarrasser de la notion de moi qui naît naissance à ces émotions obscurcissantes. Et il faut comprendre également qu'il y a plusieurs façons de s'attacher à ces agrégats en pensant qu'ils sont permanents, etc. Et de là naît donc le désir de se libérer du samsara. On peut relier également ces différentes étapes que nous avons mentionnées aux quatre vérités. En effet, la première vérité, celle de la souffrance, c'est celle qui correspond aussi à ce que nous avons appelé les souffrances intenses des royaumes inférieurs, des mondes inférieurs du samsara, où tout n'est que souffrance. Et puis, la vérité des causes de la souffrance, c'est ce que nous avons mentionné précédemment, c'est-à-dire toutes les actions négatives dont il faut nous défaire. Et le résultat, comme nous en avons dit, c'est en évitant ces actions négatives, eh bien, on se libère des souffrances. Donc là, c'est la troisième vérité, la vérité de la cessation de la souffrance. Et puis, qu'est-ce que la vérité de la voie? C'est la pratique des 10 actions vertueuses, c'est-à-dire le contraire des 10 actes non vertueux, et qui permet d'atteindre à la cessation de la souffrance. Maintenant, encore une fois, l'aspect le plus fondamental de la souffrance, c'est cette souffrance omniprésente qui imprègne toute chose, qui est potentiellement là, sous-jacente ou latente dans tous les phénomènes du samsara, tant que nous ne sommes pas libérés du samsara par le jeu de la connaissance. Alors, il y a toutes sortes de karmas, d'actions qui ne font que renforcer ou perpétuer ce samsara. Ce sont ces actes non vertueux, les actes neutres aussi, qui ne font ni le renforcer ni nous en libérer. Mais il y a aussi des actes, bien sûr, qui nous permettent de nous libérer de ce samsara. Les actes ou des attitudes. Le premier, c'est le désir de nous sortir du samsara. Cette puissante détermination, qu'on traduit généralement par renoncement, mais le mot étymologiquement veut dire la certitude, la détermination certaine de nous en sortir. Donc irrévocable de vouloir nous sortir du samsara. La deuxième, c'est tout ce qui est inspiré par la compréhension de la vacuité. Et le troisième, c'est la grande compassion, qui là, bien sûr, appartient donc aux individus supérieurs que nous allons voir. Mais toutes les activités qui naissent de ce désir de sortir du samsara, du désir de comprendre et de la pratique qui permet de comprendre la vacuité, et de le développement et de l'épanouissement de la compassion, ceux-là sont des actes qui contribuent non pas à notre asservissement au samsara, mais à nous en libérer. Alors quand on s'interroge sur l'origine de la souffrance, on voit que cela a à voir avec les agrégats. Les agrégats, c'est-à-dire les agrégats physiques de la forme qui constitue notre corps et associés donc à un phénomène conscient qui est notre esprit. Mais est-ce que par nature même, ces agrégats sont-ils nécessairement liés à la souffrance? En effet, c'est au travers de ces agrégats, l'association du corps et de l'esprit, de la conscience, que peu à peu nous devenons un Bouddha. Et un Bouddha, même s'il est constamment libéré de la souffrance, il a atteint l'éveil, il a toujours un corps, il a toujours une parole, il a toujours un flot de conscience. Donc il faut faire une différence entre les agrégats purs et simples et les agrégats qui deviennent une sorte d'aimant ou qui attirent la souffrance. Alors, lorsque cet agrégat commence à attirer la souffrance, c'est pourquoi? C'est parce que, en raison du fait que nous sommes sous l'influence des émotions ou des facteurs mentaux obscurcissants, sous l'influence des actes néfastes, paroles et pensées commises dans le passé. Et le mûrissement de ces actes, c'est sur ces agrégats du corps et de la conscience qu'ils vont se produire. Donc ces agrégats et cette conscience deviennent un support ou comme un aimant qui vont attirer les résultats d'avoir été le jouet ou l'esclave des émotions ou des facteurs mentaux obscurcissants. Et il va être le support ou l'aimant qui va attirer les conséquences de nos actes en termes de souffrance. Il va être le support au sein de cette continuité en constante transformation que sont ces agrégats impermanents. Maintenant, on voit qu'il faut distinguer les agrégats purs et simples, qui sont toujours présents au moment du Bouddha, et les agrégats qui sont le support d'une souffrance que nous avons créée nous-mêmes et qui se manifestent par les lois du karma. Donc là, ils sont le support de l'expression des causes de la souffrance et des kleshas. Mais est-ce que tous les phénomènes de l'univers sont-ils des expressions de ces causes de la souffrance? On peut se demander, par exemple, quelle est la relation entre notre karma personnel et l'univers en général? Si l'on regarde l'univers extérieur, le monde inanimé, et qu'on va à sa racine même, on dit dans la cosmologie bouddhique que la composante la plus fondamentale de ce monde extérieur des phénomènes, ce qu'on appelle des particules d'espace. C'est une sorte de potentiel non substantiel, un peu comme le vacuum de la physique, qui est un potentiel de manifestation, c'est ce qu'on appelle les particules d'espace. On peut alors se demander, est-ce que l'existence de ces particules d'espace était le résultat d'un karma ou était-ce simplement la nature même des choses que ces particules d'espace existent? Et c'est probablement cette dernière hypothèse qu'il faut retenir. De la même façon, est-ce que le simple phénomène de conscience, c'est-à-dire la luminosité fondamentale qui caractérise un phénomène conscient par opposition à un phénomène inconscient comme un caillou ou n'importe quoi. Est-ce que ça est le résultat d'un karma ou est-ce que c'est simplement la nature des choses? À nouveau, c'est cette seconde hypothèse qu'il faut retenir. Est-ce que le fait que les instants de conscience se succèdent naturellement les uns aux autres, c'est-à-dire qu'un instant de conscience naît d'un instant de conscience précédent et engendre un instant de conscience suivant? Et là, encore une fois, c'est probablement un phénomène naturel, c'est la nature même des choses que ce phénomène de conscience se perpétue. Maintenant, il peut y avoir à la fois le monde extérieur et la conscience, c'est-à-dire notre corps et l'aspect animé des agrégats, peuvent bien sûr devenir un support de souffrance lorsque ce flot de conscience et cet ensemble d'agrégats physiques et psychosomatiques, disons, est sous le pouvoir de l'ignorance et des facteurs mentaux obscurcissants. À ce moment-là, ce corps, ces agrégats et cette conscience devient le support de l'expérience de la souffrance. C'est pour ça que dans la marche vers l'éveil, le Bodhicharyavatara, Shantideva explique bien que les kleshas, ces facteurs mentaux négatifs, sont la source de tous nos malheurs. Et ce sont notre ennemi le plus féroce, ce sont ces kleshas. Il n'y a pas au monde d'ennemi plus nuisible que ces kleshas eux-mêmes. C'est la source de toutes nos souffrances et c'est donc de cette manière que nous devons les examiner. Les kleshas, il y en a aussi de plusieurs sortes. Généralement, on distingue trois poisons principaux, le désir attachement, l'animosité haine et la confusion ou l'ignorance. La confusion, c'est donc l'aspect le plus subtil des kleshas. La confusion ou l'ignorance naît de ne pas percevoir la nature véritable des choses. Et donc l'antidote, c'est bien sûr de dévoiler ou de comprendre la nature ultime des phénomènes. Et donc on voit qu'il y a des kleshas qui sont liés à des phénomènes émotionnels comme le désir et la haine. Et il y a aussi des kleshas qui sont liés à des vues fausses, des vues erronées. C'est le cas de la confusion mentale et de l'ignorance. Et bien sûr, les kleshas liés aux émotions visibles sont plus grossiers et ce qui est lié à des vues fausses est plus subtil. Une vue fausse, c'est quoi? C'est une façon erronée d'appréhender le monde des phénomènes et d'appréhender nos perceptions. L'antidote à cela, c'est d'avoir des vues correctes, tout comme dans le monde physique, le froid est l'antagoniste, est antinomique de la chaleur. De la même façon, une vue correcte est antinomique d'une vue incorrecte. Et c'est pour ça qu'il est important, en fin de compte, d'aboutir à la vue correcte ultime, à savoir la connaissance de l'absence d'identité dans les phénomènes, dans la personne et dans les phénomènes extérieurs. C'est ce qu'on appelle la sagesse de l'absence de soi, qui est aussi la compréhension de la vacuité.